Bonjour à tous et à toutes. C'est un bonheur de se retrouver ensemble pour un culte, rendre un culte à Dieu. Je voudrais demander à quelqu'un de prier avant d'aller plus loin. Voilà. Samuel, tu veux prier? Eh bien, ce qui est important dans la vie d'un chrétien, c'est de grandir. Et cette croissance, eh bien, c'est de marcher avec le Seigneur, de marcher près de lui, de vivre dans une communion étroite et profonde avec Dieu. Et c'est de ne pas se contenter d'une vie chrétienne superficielle. La vie chrétienne superficielle n'amène jamais quelqu'un très loin. Donc, il faut de la profondeur, il faut rechercher les choses essentielles, les choses éternelles. Et dans cette pensée-là, on va lire le psaume 16. Psaume 16. C'est pas un psaume long, mais il est d'une richesse extraordinaire. Alors, psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon bien. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quand on médite ce psaume, on se rend compte à quel point ces paroles sont vraies et combien elles sont importantes pour notre vie. C'est la parole qui a été prononcée par David, un homme pieux, un homme qui cherchait Dieu, un homme qui était selon le cœur de l'Éternel, un homme qui avait choisi de marcher dans la voie de Dieu, dans les commandements de Dieu, d'une manière méticuleuse, d'une manière précise. Il voulait vivre pour Dieu, il avait fait tout ce qu'il fallait pour faire que sa vie soit conforme à la volonté de Dieu et à l'enseignement de la loi. Donc il avait pris des précautions pour que tout se fasse comme il faut. Et c'est comme cela qu'il parle. Alors il y a des paroles où il dit « voilà ce que je fais » et d'autres paroles où il parle du résultat, ce qui s'est passé. Alors, comme dans beaucoup de psaumes, eh bien, le psaume est une prière. Hein. Là, c'est une prière à Dieu, c'est une prière pour... mais c'est en même temps un enseignement. Alors, premier verset, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » La première chose qu'il demande à Dieu, c'est d'être gardé. On a besoin que Dieu nous garde. On a de bonnes dispositions, on a le désir d'avancer, on a le désir de faire des progrès dans notre vie chrétienne, mais jamais nos progrès ne seront par nos efforts, par nos forces. On a besoin que tout cela se fasse sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui intervient. C'est Dieu lui-même qui nous soutient. Si vous voulez commencer quoi que ce soit avec vos propres forces, votre propre volonté, ce sera pour les choses de ce monde, vous pourrez peut-être arriver à faire quelque chose de bien. Mais dès qu'il s'agit de choses spirituelles, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a une force antagoniste qui est si forte en nous que nous ne sommes pas capables, avec nos forces, de la vaincre et d'aller plus loin. On a besoin de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, secours-moi. Viens à mon secours parce que je suis dans la détresse, parce que je suis incapable par moi-même, par mes efforts, d'arriver jusqu'au bout. C'est dans avec Dieu, le 80% est proche de zéro. Si vous avez une vie chrétienne qui va à 80%, vous êtes proche de zéro. Mais si vous êtes à 99%, je dirais que vous êtes à 10%. C'est ce que Dieu demande toujours, c'est la totalité. Et nous, par nos efforts, nous ne sommes pas capables de remplir la totalité. Nous sommes capables d'aller très loin pour certains, mais ce n'est jamais assez loin pour Dieu. Parce que ce que Dieu vise pour nous, c'est la perfection. Et nous, par nos efforts, eh bien, nous n'arrivons pas à la perfection. Et même dans notre pensée, nous nous satisfaisons de la médiocrité et d'aller très loin, mais pas assez loin. Nous allons du point de vue humain très loin, mais pas du point de vue de Dieu. Dieu a des exigences si fortes qu'il n'y a que le secours de Dieu qui peut nous amener jusqu'au bout. Et c'est nos meilleures volontés, notre meilleur enthousiasme, notre meilleure persévérance ne fera pas ce que nous avons besoin. Et nous ne pourrons pas aller aussi loin que nous aurions aimé, et ce que Dieu, surtout aussi loin que Dieu veut. Donc je pense que c'est une chose bien comprise. C'est dès qu'on veut vivre, et c'est Paul hein, qui le dit, dans l'Épître aux Romains, il dit « quand je veux faire le bien, eh bien, il y a quelque chose qui me pousse à faire le mal. » Il dit « qui misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort hein ?» C'est le constat, et on arrive après des efforts, des années d'efforts, on se dit « mais comment est-ce que je peux y arriver ? Comment est-ce que je peux y arriver ?» Et nous ne pouvons arriver qu'avec Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la force. C'est lui qui est notre rocher, qui est notre forteresse, qui est le soutien de notre vie. C'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et c'est pour cela que David commence ce psaume de cette manière, en disant « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi. » Je me confie en Dieu. Dieu est la forteresse de ma vie. Dieu est l'endroit où je me trouve en sécurité. Garde-moi. Parce que l'expérience lui a prouvé qu'il n'est pas capable par lui-même. Et quand il se croit fort, c'est alors qu'il est faible. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont tombées. Et vous savez dans quel péché elles sont tombées? Mais dans le péché qu'elles dominaient parfaitement. Celui dans lequel elles étaient le plus fort. C'est pas là où elles étaient le plus faibles. Et leur chute était monstrueuse. On se dit, mais comment cet homme, cette femme, est-il tombé là? Parce qu'il se croyait fort contre ce péché. Jamais je ne tomberai là. Les autres, oui. Un tel, oui. Pas moi. J'ai toujours fait attention. Je ne suis pas tenté de ce côté-là. Eh bien, gardez-vous bien. Parce que c'est là que vous allez tomber. Et l'histoire même de David prouve cela. Les péchés de David sont des péchés de scandale. Et on aurait dit à David, quand il était un jeune homme qui fuyait devant Saül, qu'il allait un jour tomber dans le crime et l'adultère, ou dans l'adultère et le crime, mettez la chose dans le sens que vous voulez, eh bien, il aurait dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Eh bien, c'est là qu'il est tombé. Ce sont des péchés sur lesquels il se croyait sans doute très fort, à l'abri d'une manière définitive, complète. Il pouvait se dire, jamais ces choses-là n'arriveront. C'est pour cela que nous avons besoin de dire, Seigneur, garde-moi. Ouvre mes yeux sur ma propre faiblesse. Nous sommes aveugles par rapport à nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui va nous faire tomber. Nous ne savons pas là où nous sommes faibles. Nous croyons que nous sommes forts, mais nous sommes faibles. Et c'est justement parce qu'on n'a pas, on se croit fort que l'on n'est pas en garde sur certaines choses. Et on n'est pas en garde continuellement. Et le jour où la tentation arrive, eh bien nous tombons. Alors, David le savait bien et il dit à Dieu de le garder. C'est bon, il aurait dû peut-être le dire davantage parce que ça, la suite a prouvé qu'il pouvait tomber. Mais nous, eh bien, nous devons bien faire attention à rechercher la protection de Dieu, la garde de Dieu, que Dieu soit pour nous comme une forteresse qui nous protège de l'ennemi. C'est si vous vous croyez fort, si vous vous croyez capable, si vous croyez que vous dominez bien les situations, alors vous êtes en grand danger. Parce que vous mettez votre confiance en vous-même et vous ne la mettez pas en Dieu. Notre confiance est en Dieu. Celui qui nous garde, qui veille sur nous, qui nous protège, c'est Dieu lui-même. En dehors de lui, nous ne sommes que faiblesse. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. J'étais dans le métro hier avec des gens qui hurlaient toutes sortes de choses et un délire pas possible. Et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ? Vraiment la débauche et la déchéance, l'alcool, tout ça. Et puis, je me faisais cette réflexion. Je me dis, mais si Dieu me garde pas, je suis capable de tomber dans les mêmes choses. C'est de tomber dans les mêmes délires. Et je les regardais, je voyais deux ou trois en particulier, les plus virulents, les plus, excusez-moi le mot, brailleurs. Et je me disais, mais est-ce que je peux voir dans cet homme un chrétien né de nouveau, saint, qui marche fidèlement, qui aime prier, qui aime Dieu, qui veut vivre fidèlement? Humainement, je me suis dit, je ne peux pas voir une solution pour cet homme-là. Et en particulier, hein, il était grand, il tapait sur le plafond hein, de toutes ses forces. Je me dis, mais c'est du plastique, il risque de le casser. Hein. C'est... mais bon, je me dis, je ne peux pas le voir. Humainement, je ne peux pas le voir sauvé. Il n'y a que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu, pour faire de cet homme déchaîné dans la folie de l'alcool, en faire un saint, en faire un homme pieux, un homme qui aime Dieu, qui cherche Dieu, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, au point qu'il la médite jour et nuit. Mais nous ne sommes pas meilleurs. Et nous sommes, sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde infinie de Dieu, eh bien nous serions tombés dans de pareils péchés, dans de pareils débordements. Gardez-vous de regarder les autres avec hauteur et de dire, oh, ils tombent dans ces choses-là, parce que vous êtes capable aussi de tomber. Peut-être pas dans les mêmes péchés, peut-être pas dans les mêmes débordements, mais peut-être dans un autre scandale, dans d'autres choses. C'est se confier en Dieu, regarder à Dieu, se tenir près de Dieu, se méfier de soi-même, ne jamais avoir de confiance en soi, regarder que Dieu est le Tout-Puissant, c'est lui qui me garde. Je lui confie la garde de ma vie. Je lui demande de me protéger de moi-même, de mes passions, de ma tendance à l'indépendance, à courir à droite et à gauche et à faire un peu n'importe quoi. C'est Seigneur, garde-moi. Et je peux vous dire, c'est une prière qui est à faire. Et la faire jour après jour. Et il y a des moments où vous passez dans certaines situations et vous dites, Seigneur, garde-moi, veille sur moi, je suis sous ton regard. Ne me laisse pas dans cette situation. Que je puisse vraiment tenir ferme et aller plus loin. Regardez toujours vers toi. Et c'est quelque chose d'important. C'est à faire. Je vous le conseille vivement. Et c'est si vous ne le faites pas déjà. Et puis il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Et dans cette vie où on demande à Dieu de nous protéger, eh bien on reconnaît que Dieu est notre Seigneur. C'est pas nous qui avons l'initiative, c'est pas nous qui avons la force, c'est Dieu. C'est si on reconnaît la seigneurie de Dieu, l'autorité souveraine de Dieu, eh bien, nous sommes protégés. Parce qu'on se dit, mais moi, je suis un être humain, avec toute ma faiblesse, et j'ai du mal à faire certaines choses. Mais Dieu est mon Seigneur. C'est lui qui domine. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne l'énergie. Et c'est Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement dans le ciel et il n'a pas un règne sur toute chose, comme c'est pas une idée vague. Dieu, eh bien, il a un pouvoir réel et il a un pouvoir sur ma vie. Et mais il a le pouvoir que je lui donne. Si je dis à Dieu, tu es mon Seigneur, domine dans ma vie, prends la première place dans ma vie, assieds-toi sur le trône de ma vie, alors là je suis gardé. Parce que c'est lui le roi, c'est lui le Seigneur de ma vie, c'est lui qui tient les mouvements de ma vie, qui tient mes sentiments, qui tient ma volonté, qui tient mon être entier. C'est très important que Dieu tienne toute chose dans ma vie. Alors là, il contrôle. Mais si c'est moi qui ai le contrôle des choses, alors les choses risquent d'échapper de mes mains. Et je contrôle certaines choses, mais d'autres non. Ou certaines, je les contrôle, mais d'autres, je les contrôle mal. Ou je crois que je contrôle, mais je ne contrôle pas si bien. Il faut que ce soit Dieu qui soit au contrôle de ma vie, qui soutienne, qui garde, qui protège, qui fait en sorte que les choses se passent selon sa volonté, selon sa sainteté, qu'il n'y ait pas une transgression ou une possibilité de transgression dans ma vie, parce que c'est Dieu qui est souverain dans ma vie. Et c'est très important que nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous mettions Dieu sur le trône de notre vie. On dit à Dieu, prends la direction de ma vie, contrôle ma vie. Je me confie en toi. Seigneur, que dois-je faire? Conduis-moi dans le bon chemin, dans la voie droite. C'est une démarche très importante. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Quand j'étais à l'école, le professeur notait les devoirs qu'il y avait au tableau. Il y avait les devoirs obligatoires et les devoirs facultatifs. Mauvaise idée. Parce qu'un jour, il s'est rendu compte que les devoirs facultatifs, personne ne les faisait. Alors, ils avaient du mal à faire les devoirs. Nous avions les devoirs obligatoires. On avait des difficultés à les faire. Alors, les facultatifs, je veux vous dire. Et si on ne met pas notre vie sous le contrôle de Dieu, alors il y a des choses qui sont obligatoires et d'autres qui sont facultatives. Et comme tout ce qui est facultatif, eh bien on ne le fait pas. Et nous ne sommes pas mieux que des enfants, nous sommes des adultes, mais on n'est pas capable non plus de dire ce qui est facultatif, eh bien je vais le faire. Si vous dites qu'il y a quelque chose d'obligatoire, là ben, c'est une obligation, on va le faire. Mais si quelque chose, eh bien on peut le faire ou on ne peut pas le faire, eh bien on ne le fera pas. Mais quand on met Dieu à la place souveraine de notre vie, alors il n'y a plus de facultatif. C'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le seigneur. Et ce n'est plus facultatif, c'est obligatoire, c'est sa souveraineté. Et ce n'est pas simplement un patron et on fait une chose devant lui et derrière lui on fait autre chose. Mais c'est Dieu. Et Dieu, il est là constamment, et on ne peut rien cacher à Dieu. C'est sous le regard de Dieu que les choses se font. Même si vous ne vous rendez pas compte, même si vous n'avez pas l'impression, Dieu est là, et il vous a vu. Et quand Dieu est au contrôle de notre vie, eh bien, c'est sous son regard. Et on dit, Seigneur, je désire que mes actions t'honorent, qu'elles te glorifient. Contrôle tout cela. J'ai des sentiments qui vont un peu n'importe comment, hein, vous pouvez dire cela, ou une volonté, ou mes pensées, je n'arrive pas à les contrôler. On remet tout cela entre les mains de Dieu, on dit Seigneur, tu es Seigneur, prends le contrôle de ça, je te le donne. Ce n'est pas ma volonté, parce que moi j'ai beau lutter, j'ai lutté 5 ans, 10 ans, 20 ans sur cette tendance et je n'ai pas réussi à avoir la victoire. Et je te demande que toi, tu le mettes sous contrôle. Il y a un cantique, hein, s'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il nous met en liberté. Vous connaissez cette strophe de cantique? S'il nous voit vrai et sincère à chercher sa volonté, la sainteté, il nous met en liberté. Il faut que l'on soit vrai, que l'on soit sincère. Si vous le dites aujourd'hui, puis demain, c'est complètement oublié, ou dans 5 minutes, hein, et où vous allez y repenser dans 20 ans, n'attendez pas qu'il y ait une délivrance dans quoi que ce soit. Il faut une persévérance, et il faut vouloir vraiment. Et c'est comme cela que les choses changent. Donc on dit à l'Éternel, « Mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Alors il est Seigneur, et c'est dans la progression, au fur et à mesure que l'on grandit dans cette seigneurie de Jésus-Christ et de Dieu lui-même, eh bien, on est, comment dire, Dieu devient de plus en plus précieux. Il y a un amour pour Dieu qui grandit. Dieu prend non seulement la première place, mais il prend la première place dans nos affections. Et l'affection principale, c'est l'affection pour Dieu. On désire non seulement lui plaire parce que c'est une obligation, ce n'est pas seulement un seigneur, un roi, un maître, mais c'est notre plus grand ami. Cette proximité, cette intimité, cette relation profonde avec Dieu qui fait que Dieu, eh bien, parle et nous aimons entendre sa voix. Et quand il y a quelque chose qui trouble la communion, on est dans le désarroi parce que la communion est troublée. Et ou bien on n'entend pas la voix de Dieu. C'est les silences de Dieu. Ah, les silences de Dieu, c'est vraiment quelque chose, c'est une épreuve. Quand vous entendez la voix de Dieu et que vous aimez la voix de Dieu, et quand Dieu garde le silence, vous êtes dans la détresse. Vous dites, Seigneur, pourquoi tu ne me parles plus? Mais parfois, dans sa volonté, il veut que notre foi grandisse. Alors, il met l'accent sur la foi. Alors, parfois, eh bien, il faut qu'il ne parle pas, parce qu'on ne marche pas simplement parce qu'on sur des choses tangibles, mais on lui fait confiance, même s'il ne parle pas. Voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Mais c'est vrai que Dieu est notre bien le plus précieux. C'est notre joie, notre bonheur. Il est en Dieu. Et si bien que même si vous pouvez tout perdre dans votre vie, vous pouvez perdre énormément. Et il y a des chrétiens qui, à un moment de leur vie, on peut dire qu'ils ont tout perdu. Tout ce qui est matériel, même leurs affections profondes. Il y a eu des chrétiens complètement déracinés de leur pays. Ils ont dû fuir dans un autre pays. Et ils ont fui et ils ont même perdu leur famille. Où ils ont été déportés. Ils ont tout perdu, sauf Dieu. Et dans les moments les plus difficiles, eh bien, il y avait toujours la présence de Dieu. Je pense à cet homme, il s'appelait Jérôme de Prague. Peut-être vous avez entendu parler, mais bon, peut-être pas. Mais c'est l'histoire de l'Église. C'était un ami de Savonarole, c'est ce qu'on appelle les pré-réformateurs. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus. Mais donc cet homme, sur la confiance d'un, ce qu'on appelait le sauf-conduit, c'était l'empereur qui lui avait donné un papier qui garantissait sa sécurité. Il était sous la sécurité de l'empereur. Et alors, il est allé à un concile pour défendre ses idées et les idées de Savonarole. Mais Savonarole venait d'être brûlé. Alors, il allait défendre ses idées. Et la première chose qu'on a fait, on l'a mis dans une prison. Voilà. C'est le sauf-conduit n'a servi à rien. C'est comme quoi on peut dire, signer des papiers. Il croyait, il avait confiance dans un papier, puis le papier servait à rien. Et pendant 3 mois, il est resté dans un endroit sordide. Pire que ça, c'est difficile. Hein. C'était un cachot, un bas-fond de prison. Vraiment quelque chose. La compagnie qu'il avait, c'était celle des rats. Et dans ce moment le plus difficile de sa vie, eh bien, il y avait la présence de Dieu. Et sa prison, c'était le paradis, parce qu'il y avait la présence de Dieu. C'était un moment inimaginable. D'écrire tout cela, ce serait une perte de temps tellement ça allait très loin. Mais il était dans la présence de Dieu. Il avait la paix parfaite de Dieu. Il souffrait pour le nom de Christ. Et il a été jusqu'à la mort, hein, parce qu'il a fini par être brûlé. Mais dans ces circonstances-là, la présence de Dieu était tout ce dont il avait besoin. Il avait tout perdu. Il n'y avait plus aucun repère. Il n'y avait même plus la moindre liberté. Même un rayon de soleil par une fissure quelconque n'existait pas. Pendant des mois, il n'a pas même vu le soleil. Il était au fond, mais la paix de Dieu, parfaite, était dans son cœur. Tout simplement parce qu'il y avait Dieu. Parce que Dieu était son souverain bien. Bon, nous vivons dans une vie beaucoup plus facile que lui. Nous avons beaucoup plus de liberté. Nous avons beaucoup plus. Mais même si toutes ces choses venaient un jour à manquer, eh bien, nous avons toujours Dieu. Il sera toujours là. C'est que vous ayez les biens matériels, que vous ne les ayez pas, que vous ayez les affections humaines, que vous ne les ayez pas, que le soleil brille ou qu'il ne brille pas, que aujourd'hui soit un jour facile ou que ce soit un jour difficile, cela ne change rien au fait que Dieu peut être pour vous votre principal ami, la personne la plus importante de votre vie. Et là, il y a la paix parfaite, la communion intense. Dieu est là, et c'est lui qui console notre cœur, qui rassure notre vie, et qui nous dit, n'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Il y a des paroles, vous savez, qui vous réconfortent. Vous sentez, vous, dans la détresse, vous dites, mais Seigneur, comment c'est possible? Et on dit, Seigneur, et puis Dieu nous donne un verset, une parole, et là, vous êtes fortifiés. C'est Dieu lui-même qui vient vous visiter pour vous consoler, pour vous fortifier. Mais il faut qu'il y ait la Seigneurie de Christ. S'il n'est pas le premier, alors vous allez mettre votre confiance dans d'autres choses et vous allez attendre que ces autres choses vous consolent. Et il y a des personnes qui, voilà, j'étais pas très très bien, alors j'ai pris mon cheval et je suis allé me promener dans la forêt et là ça allait mieux. Bon, si un cheval peut vous consoler, très bien. D'autres disent, ouais, j'ai fait 20 km en voiture et là ça allait mieux. Ou d'autres vous disent, j'ai fait une promenade, ils ont des moyens. Ils ont des choses matérielles, ils ont autre chose que Dieu pour les consoler, pour les fortifier. Ou on vous dit, j'ai pris un livre de poésie et j'ai après en avoir lu deux ou trois, là, bon, ça allait mieux, j'ai fait un peu le tri. On se console avec des moyens qui ne servent à rien. Bon, ils nous ont consolés. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a consolé. Et le plus important pour nous, c'est Dieu. C'est de chercher son refuge en Dieu, ses consolations en Dieu. Mais même que si tout va mal, mais même quand ça ne va pas mal, c'est votre journée, vous l'avez commencée avec Dieu. Et là, vous êtes armé pour une nouvelle journée. Votre cœur s'est élargi. Bon, j'ai un bon verset. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné de sa joie et j'ai plus de paix. Je vais dans cette nouvelle journée bien armé, consolé par Dieu, fortifié, encouragé. C'est très important. Et ce n'est pas simplement, j'ai lu des choses ou des bonnes pensées. J'ai lu la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un verset qui a été pour moi un réconfort. C'est comme cela. Et puis, bon, pour aller un peu plus vite, parce que je m'attarde, mais verset 3, 4, et il dit, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Il faut savoir quels sont nos amis et quels sont nos meilleurs amis. C'est vrai qu'il y a la communion avec Dieu, la proximité de Dieu, c'est très important. Et non seulement on l'a vu, mais il y a d'autres versets plus loin qui en parlent encore. Mais il y a ceux qui aiment Dieu de la même manière, qui cherchent Dieu vraiment. Et après, il y a des frères et sœurs qui sont superficiels dans leur vie chrétienne. Et c'est un malheur. Et je souhaite qu'ils avancent et qu'ils mettent Dieu en premier dans leur vie, parce que c'est très important. Mais ils ne le font pas. Et il faut qu'ils arrivent à des moments difficiles pour qu'ils apprennent que Dieu doit être le premier dans leur vie. Alors, vous avez des discussions avec eux, ils vont vous parler de toutes sortes de choses. Mais Dieu n'est pas le sujet principal de leur vie, de leur conversation. Et comme il n'est pas le principal dans leur vie, leurs conversations ne sont pas orientées vers Dieu. Alors ils peuvent vous parler de multitudes de choses, mais on aime bien, on les aime beaucoup, hein, ça ce n'est pas un problème. Mais on préfère la proximité de personnes qui aiment prier, qui aiment marcher avec Dieu, qui aiment la communion avec Dieu. Parce que on est sur la même longueur d'onde, si je puis m'exprimer ainsi. On a des passerelles les uns avec les autres. On sait de quoi on parle. Il y a deux chrétiens qui s'étaient rencontrés dans un train. Alors, ils ne parlaient pas vraiment la même langue. Alors, il y en a un, au bout d'un certain temps, il fait quelques gestes et quelques paroles dans la langue. Ah oui, il était chrétien, il a montré sa Bible et tout. Ah oui, bon. Et puis, chacun voulait savoir si l'autre était né de nouveau. Et puis, par gestes, par bribes, tout ça, ils sont arrivés à savoir qu'ils étaient nés de nouveau tous les deux. Alors, ils voulaient savoir si l'autre, il aimait prier. Alors, par gestes, par bribes, en montrant un verset, l'autre cherchait dans sa Bible. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Et puis, est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Alors, ça, pour le dire, hein, c'est pas difficile, facile. Hein. Bon, alors, il a montré un verset. Alors, l'autre l'a lu. Il a dit, oui. Et moi aussi, je l'ai. Et il a montré un autre verset qui confirmait qu'en fait, il connaissait des versets où le Seigneur Jésus était le Seigneur de leur vie. Alors, ils étaient vraiment. Alors là, on est famille de Dieu, mais là, on est même on est entré dans le Saint des Saints. Là, hein. On est dans la proximité quand on prie. Et ils se sont rendus compte tous les deux que même s'ils ne parlaient pas la même langue, même si leur Bible n'était pas dans une. Ils ne pouvaient pas échanger leur Bible et ce n'était pas possible. Hein. Ils n'auraient pas trouvé le même intérêt. Parce que c'était deux Bibles dans des langues différentes. Ils s'étaient rendus compte que leur niveau de vie chrétienne était le même. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont prié. Mais ils ne se comprenaient pas. Mais ils savaient qu'ils priaient pour les mêmes choses. Parce qu'en fait, c'était le même Dieu, la même communion fraternelle, la même hauteur spirituelle. Et vous savez, c'est très important. On ne peut ne pas avoir de vraie conversation avec une personne, mais être dans la même communion. Et on ressent combien ce frère est dans cette communion. C'est des choses que l'on ne peut pas. Ça ne s'explique pas. Et il y a des personnes, on dit qu'on a les mêmes affinités, mais c'est beaucoup plus que des affinités. C'est une communion d'une qualité semblable. Et on se retrouve, on est heureux de cette communion semblable. Il y a quelque chose qui fait. Après d'autres, eh bien, on les aime, on a des conversations, on passe du temps avec eux, mais il n'y a pas ce privilège de cette communion, cette proximité parfaite. Parce que il y a un amour du monde qui se mélange avec l'amour de Dieu. Il y a l'amour de ceci, l'amour de cela, et puis on n'est pas orienté dans une même direction. On n'a pas autant de communion que ça. Mais après, il y a des frères et sœurs avec lesquels il y a une communion spéciale, profonde. Il y a quelque chose qui passe. C'est le privilège d'être dans la famille de Dieu, sans compromis, sans aucune divergence. C'est ce que dit les saints qui sont dans le pays. Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. C'est pas seulement. Tous les bons Israélites ont toute mon affection, parce que David était un bon Israélite. Il avait un peuple tout autour de lui. Mais il y avait parmi ces Israélites certains qui étaient plus proches de lui que le reste. C'est parce que c'était les hommes pieux, les gens qui aimaient la sainteté, la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Et c'est un privilège spécial, quelque chose qui, ils ont toute mon affection. Les autres avaient son affection, mais pas toutes. Il y a des personnes qui sont plus privilégiées que d'autres. Hein. Bon, il faut pas... c'est comme cela. Alors, il dit, verset 5, « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie. Mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. » C'est quelque chose, vous savez, parce qu'il y a cette immense communion. C'est Dieu est notre partage. Il est notre héritage. Il est notre bien le plus précieux. C'est ce que j'ai dit hein, déjà tout à l'heure. Mais c'est tout peut manquer autour de nous, tout. Vous pouvez même ne pas avoir suffisamment de nourriture à manger. Mais Dieu peut remplir votre cœur de sa joie et de sa paix, d'une manière ineffable, d'une manière que vous ne pouvez pas décrire, qui est au-delà de toute description humaine. Il n'y a que ceux qui connaissent cette paix et cette joie parfaite qui savent de quoi on parle. Mais ça ne peut pas s'expliquer. C'est beaucoup plus grand que ce que l'on imagine. Et quand ce monde vient présenter ceci ou cela, ou le péché, ou la désobéissance, mais ça ne nous fait pas envie. Ça ne nous fait pas envie. Parce qu'on a des biens meilleurs, plus grands, plus précieux. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est acquise. Il dit, même la nuit, mon cœur m'exhorte. Même la nuit, vous vous réveillez la nuit et vous êtes de plein pied dans la communion avec Dieu. Ce n'est pas que vous dites, ah oui, c'est vrai que j'ai la communion avec Dieu. Mais vous y êtes immédiatement. Vous vous réveillez, vous êtes dans la communion avec Dieu et sa paix parfaite est là. Et vous vous réjouissez dans la présence de Dieu. Même quand les choses il y a quelque chose d'inconscient. Et même quand vous dormez, vous avez cette communion avec Dieu. Il y a je me rappelle, c'est un peu spécial, mais j'étais en train de dormir. Et puis, il y avait quelque chose, un rêve qui est arrivé. Et j'ai dit non, je suis chrétien. Je me rappelle parfaitement que et ça m'a réveillé même. C'est parce que j'ai dit non, je ne veux pas rêver à des choses comme cela. Alors vous pouvez expliquer ça comme vous voulez. Moi, je dis c'est parce qu'on est chrétien et il y a la paix de Dieu, il y a la communion avec Dieu, il y a notre vie dans le sommeil n'est pas une vie totalement inconsciente où on est plus chrétien quand on dort, où on est moins chrétien, on est chrétien tout le temps. Si vous êtes en paix avec Dieu, si vous êtes dans la communion profonde avec Dieu, si Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, eh bien que vous viviez, que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas, que vous soyez conscient ou pas conscient, vous avez toujours la communion avec Dieu et la paix de Dieu. Ça ne change pas, ça se poursuit constamment. C'est quelque chose qui remplit votre vie de toutes les manières et chaque seconde de votre vie, sur les 24 heures d'une journée, sur la durée de votre vie. C'est tout le temps, ça ne change pas. Alors après, bon, ce monde peut dire que certaines choses, mais par expérience, je peux vous dire que quand on est dans la communion avec Dieu, c'est tout le temps, partout. Et même dans les choses qu'il semblerait qu'on ne puisse pas contrôler, eh bien, on peut contrôler et on peut dire, j'ai toujours la paix avec Dieu. Il arrive même que dans le sommeil, vous êtes en train de dormir et il y a une personne que vous priez pour elle. Dans votre sommeil, vous dormez, hein, et vous priez pour cette personne parce que vous voulez vraiment qu'elle soit sauvée et que vous dites, mais comment c'est possible? Je n'avais pas prévu une réunion de prière dans mon sommeil. Mais je rêvais que je priais pour un tel et que... Mais le Seigneur peut... Alors, je n'explique pas, hein. Je vous dis les choses telles quelles, Parce que quand Dieu est précieux à notre cœur, quand il remplit notre vie, eh bien, ce qui semble complètement fou et impossible du point de vue humain, eh bien, devient possible. Parce que votre vie est imprégnée de Dieu. Vous êtes, si je puis m'exprimer ainsi, imbibé de la communion de Dieu. Et cela dépasse ce que même les actions conscientes. Alors, bon. Donc, c'est cet héritage de la présence de Dieu et de la communion avec Dieu. Je désire vous donner soif et que vous ayez vous dites, mais c'est possible? Et je vous dis, c'est possible. Et beaucoup plus que vous pouvez penser. Après, il y a eu des sectes, il y a eu des mouvements qui ont mis l'accent sur une certaine expérience, un certain piétisme. Et il y a eu le mouvement piétiste et le mouvement, c'était en France en plus, avec Madame Guyon, etc., le quiétisme, voilà. Il y avait le piétisme et le quiétisme, qui sont des contrefaçons de cela. Mais là, nous ne vivons pas pour une expérience. Nous marchons avec Dieu. Nous cherchons Dieu. Le côté sensible, c'est un cadeau. Mais le plus important, ce qui est important, c'est Dieu. C'est lui qui doit remplir notre vie. Après l'expérience et ce que nous obtenons de cette communion avec Dieu, alors c'est en plus. Et parfois même Dieu nous l'enlève pour un temps. Parce que nous marchons par la foi. Et pas par les sentiments, et pas par les choses sensibles. Nous aimons Dieu non pas pour ses dons, mais pour lui-même. Et beaucoup de personnes cherchent cette communion profonde avec Dieu, cette intensité, pour le sentiment. Et là, c'est une perversion de la chose. Parce qu'on cherche Dieu pour lui-même. Et il nous donne alors en plus. Mais d'abord, c'est Dieu que l'on cherche. Je me rappelle d'une dame, elle avait eu une expérience très profonde avec le Seigneur et elle était vraiment très très réjouie du sentiment que cela procurait. Et il y a cette petite voix à l'intérieur qui lui a dit « Et si j'ai enlevé le sentiment, tu m'aimerais toujours ?» Et au fond d'elle-même, elle a répondu « Oui ». Et le sentiment a diminué parce qu'elle était tellement occupée du sentiment que ça mobilisait toute sa vie. Le sentiment, la force du sentiment, est captivé tellement sa vie qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Mais quand le sentiment a diminué, alors elle était beaucoup plus active pour Dieu et plus... on est des humains et on a besoin que ces choses-là, même si c'est précieux, même si c'est grand, que ça soit contrôlé quand même. Et ce n'est pas ce qui est important. C'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que l'on recherche? Et beaucoup de gens qui vont vous dire, moi je recherche ceci, moi je recherche ça, m'ont dit, mais vous ne recherchez pas vraiment Dieu. Ce que vous recherchez, c'est cette expérience. Alors vous donnez un nom à cette expérience, celle-ci ou celle-ci ou celle-là. Mais en fait, ils ne cherchent pas Dieu. Et Satan peut donner des contrefaçons aussi. Hein. Quand on ne cherche que l'expérience, et qu'on ne cherche pas Dieu, quand on ne met pas sa vie entre les mains de Dieu, et qu'on cherche malgré tout une expérience, on peut faire une certaine expérience spirituelle. Et elle peut nous conduire dans des déraillements complets. Hein, complets. Donc j'ai rencontré des personnes qui avaient cherché l'expérience, et qui avaient été trompées. Et je peux vous dire, c'était un drame. Hein, parce qu'ils ne voyaient plus, ils ne savaient plus où ils étaient. Le péché ne s'appelait plus le péché. Ils pouvaient vivre dans le péché, ils avaient l'expérience, tout allait bien. Mais c'est Dieu que l'on cherche, pas une expérience. Je répète, l'expérience, c'est un cadeau. Ça vient en plus. Et elle y est ou elle n'y est pas. Elle est plus intense pour certains, elle est moins intense pour d'autres, ça c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est Dieu. Qui est Seigneur de votre vie? Qui remplit votre vie? Quelle est la personne qui est tout votre univers? De qui avez-vous soif? De Dieu? C'est très bien. Il faut qu'il prenne de plus en plus de place. Mais si c'est une expérience, vous avez tort. Parce que l'expérience ne remplira pas votre vie. Il n'y a que Dieu qui remplit notre vie. Et c'est cela le plus important. Donc, la suite de, bon, verset 9, hein, aussi mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Et puis, le verset 10, eh bien, c'est une prophétie quant au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Alors, ceux qui ont lu ce passage pendant les siècles avant la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus n'ont jamais pensé que ce verset pouvait parler de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est une prophétie sur la résurrection du Seigneur Jésus. Et Pierre, eh bien, c'est une des premières citations, la première prédication de l'Évangile. C'est Pierre qui l'a faite au chapitre 2 des Actes des Apôtres, et il a cité ce verset-là. Alors, voilà. Mais c'est une promesse aussi pour nous. C'est quand on marche dans la présence de Dieu, eh bien, il y a une vie qui est ressuscitée. Et on ressuscitera un jour, mais tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont réconciliés avec Dieu, ressusciteront. Et nous, eh bien, si nous marchons fidèlement et proches de Dieu dans sa communion, nous ressusciterons aussi, bien sûr. Mais il y a une vie chrétienne qui est une vie dans la lumière et une vie de résurrection. Et quand Jésus-Christ prend la première place, qu'il est le roi de notre vie, c'est ce qu'on appelle aussi une vie de ressuscité. Et c'est ce que nous trouvons dans Colossiens au chapitre 3, où il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez premièrement cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Car les choses qui sont sur la terre sont passagères, mais ceux qui sont dans le ciel demeurent éternellement. Donc c'est en rapport avec cette pensée-là que ces trois versets du chapitre 3 de Colossiens sont dits. C'est une vie de résurrection, on est ressuscité, on marche en nouveauté de vie. On marche d'une manière différente, on marche dans la lumière, on marche sur le sommet. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est avec confiance que l'on peut dire cela. Tu me conduiras, tu m'amèneras dans le bon chemin. C'est toi qui tiens ma main, c'est toi qui es mon rocher, c'est toi qui es ma forteresse, c'est toi qui es mon souverain bien, tu es toute ma joie. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et petit à petit, pas après pas, jour après jour, eh bien, on est conduit. On est amené plus loin. C'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas une expérience que l'on cherche. Ce n'est pas même une progression, même pas une croissance. Ce que l'on cherche, c'est Dieu. Et c'est en Dieu que l'on a placé notre affection et notre joie. Voilà, c'est Dieu qui est mon souverain bien. Et après, eh bien, il y a une croissance, il y a un chemin que l'on fait avec Dieu, il y a une marche avec Dieu. Et Dieu nous amène toujours plus loin. Mais les gens voudraient, certains chrétiens voudraient aller d'expérience en expérience. Mais ce n'est pas une vie de progrès en progrès, c'est d'expérience en expérience. Tandis que quand vous marchez dans la lumière de Dieu, dans sa communion, dans sa proximité. Alors vous ne vous rendez même pas compte des progrès que vous faites. C'est Dieu lui-même qui vous les fait faire. Vous avancez. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le chrétien que vous étiez au début où vous avez marché dans la lumière n'est pas le chrétien que vous êtes 20 ans plus tard. Il y a eu un progrès. On commence toujours, en tout. Et même dans cette vie chrétienne profonde, où Dieu est Seigneur de notre vie, où il remplit notre vie, eh bien, il y a une croissance. C'est au début, il y a quelque chose, une proximité, une joie et quelque chose de merveilleux, mais il y a un progrès. Ce n'est pas une fin. Nous ne sommes pas arrivés au bout quand nous sommes là. Mais c'est le commencement de quelque chose. C'est la marche dans la lumière. Et de progrès, on avance. Et Dieu utilise notre vie. Et Dieu fait de nous une vie qui ressemble à celle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon Père qui les fait. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les dis, Ce sont les paroles que le Père m'a demandé de dire. Et à chaque fois, le Seigneur Jésus est bien présenté son Père. Il était sous l'autorité de son Père. Et comme dit Colossiens, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et c'est cette vie chrétienne qui est une vie chrétienne qui ressemble à la vie de Christ. Et nous ne sommes pas Jésus-Christ. Donc il y a une croissance. C'est la croissance dans la grâce, comme dit, c'est dans l'épître, premier épître de Pierre. Croissez dans la grâce. On grandit et on s'affermit et on va plus loin. Et le Seigneur nous utilise de mieux en mieux. Mais il y a toujours un commencement. Et ce commencement, eh bien, on est ce qu'on est. Et le Seigneur, ce petit commencement, que on met notre vie entre ses mains, eh bien, il en tient compte. Et il est honoré par ce petit commencement. Mais au fur et à mesure, il nous ouvre les yeux, il nous apprend à aller de mieux en mieux, et de progrès en progrès, et d'avancer. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 20 ans plus tard, vous n'êtes pas le même qu'au début. Mais c'est très bien, c'est la croissance. Et j'ai rencontré des chrétiens qui, leur vie chrétienne avait été tellement changée que je voyais un caractère du Seigneur Jésus sur eux. Et même certains, je pouvais dire, mettre un verset biblique. Je me rappelle d'un frère en Christ, je l'avais appelé « Rendez grâce en toutes choses ». Il était tellement dans la joie, tout l'émerveillait, tout. Et il louait le Seigneur pour tout. Il était émerveillé, comme un enfant. Hein. C'est comme s'il avait un enfant qui est à Noël, hein, devant tous les cadeaux de Noël, il est là, il regarde, il ne sait même pas lequel ouvrir. Eh bien, il était comme ça. Je l'avais appelé « Rendez grâce en toutes choses ». Et certains, leur vie est telle, comment dire, il y a une telle transformation que il y a un caractère distinctif, quelque chose qui vous marque, vous dites « Ah tiens, ça, ça me rappelle quelque chose ». C'est comme cela. Mais notre vie chrétienne doit grandir. Si votre vie chrétienne ne grandit pas, alors posez-vous des questions. Si vous êtes le même aujourd'hui qu'il y a 2 ans ou 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, posez-vous des questions. Parce que la vie chrétienne, c'est une croissance. On ne reste pas au même stade. On avance. Et on n'avance pas seulement dans la connaissance. La connaissance est bonne. Mais si la connaissance ne vous fait pas grandir, elle ne sert pas à grand-chose. On grandit avec le Seigneur Jésus. On grandit dans sa proximité, dans sa communion. Et c'est lui qui change notre vie, qui nous transforme. Et ça ne se, à nos yeux, ce n'est pas très visible. Aux yeux des autres, oui, mais pas à nos yeux. Et c'est très bien comme ça, parce que sinon on en tirait de l'orgueil. Mais ce sont les gens qui nous voient vivre, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de dire les choses, même de serrer la main. On vous serre la main, tiens, il ne me serre pas la main comme d'habitude. Ah, il y a quelque chose de différent. C'est comme ça. Donc, cherchez le Seigneur. Cherchez à marcher près de lui. Et si vous ne pouvez ne pas y arriver aussi, mais vous lui demandez de vous donner la force. Vous dites, Seigneur, j'aimerais bien te donner ma vie, mais je n'ai pas la force de le faire. Eh bien, c'est une prière. C'est un bon sujet de prière. On lui dit, Seigneur, donne-moi la force de me consacrer totalement, d'avoir une vie qui te glorifie, une vie qui compte pour toi, une vie qui est à ton service, qui n'est plus à mon service, ou au service de mon orgueil, mon avenir, de ceci, de cela, mais une vie qui est consacrée, qui t'est consacrée. Et ça, c'est important. De demander. C'est Dieu. Vous avez un problème? Alors allez vers lui. Et ça, si vous n'y arrivez pas, et je peux dire, hein, c'est possible de ne pas y arriver, eh bien, allez vers Dieu. C'est lui-même qui vous donnera la force et l'énergie pour aller jusqu'au bout. Nous allons prier. Ô notre Dieu, tu sais combien c'est important que nous te donnions notre vie. Seigneur, nous avons bien le désir, Seigneur, et bien souvent on n'y arrive pas. Mais Seigneur, on te demande que toi-même tu interviennes dans nos vies, que tu nous donnes la force, la sagesse, l'énergie, que nous sachions faire la part des choses, Seigneur, que nous sachions mettre ce monde de côté, Seigneur, pour toi, que toi, Seigneur, tu prennes la première place, que tu sois Seigneur de notre vie, que tu sois notre joie, notre bonheur, notre horizon, notre soleil de justice, tout ce dont nous avons besoin. Ô notre Dieu, nous avons soif de toi. Nous désirons vivre pour toi et marcher dans tes voies et faire ta volonté et faire ce qui t'est agréable. Ô Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ta loi est inscrite dans mon cœur. Nous voulons dire ces paroles que le Seigneur Jésus a dites. Oui, Seigneur, nous voulons les dire parce que nous savons que c'est la vérité. Et nous remettons tout entre tes mains. Et nous te rendons grâce, Seigneur, d'exaucer nos prières, d'user de patience envers nous, Seigneur, de nous prendre par la main. Nous sommes des enfants, Seigneur, et nous avons tellement besoin que toi, Seigneur, qui es le grand Dieu, eh bien, tu nous conduises dans la voie droite, dans le bon chemin. Seigneur, nous nous appuyons sur toi et nous comptons sur tes promesses, nous comptons sur ta parole, nous comptons sur tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as dit. Nous regardons vers toi parce que tu es notre plus grande joie, notre plus grand bonheur. Nous n'avons rien de mieux sur cette terre, Seigneur, et dans le ciel, eh bien, nous nous réjouirons éternellement de ta présence. Ô gloire et louange à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.